Taleb Yassine.
Les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, ne s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés, mais il y a aussi le fait que dans cette langue, nous exprimons aussi notre originalité. Il se trouve que dans la langue française, nous exprimons l'âme du pays.
Ça peut pas faire de mal.
Précisément, en dehors enfin, du fracas actuel et de tout ce qui empêche une compréhension plus profonde des problèmes, il y a précisément des choses plus précieuses et plus profondes qui sont des liens durables entre la France et l'Algérie, dans la mesure où les deux cultures, en dépit de tout, se sont rencontrées et se sont interpénétrées.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
De Constantine à Beaune, de Beaune à Constantine, voyage une femme. C'est comme si elle n'était plus. On ne la voit que dans un train ou une calèche, et ceux qui la connaissent ne la distinguent plus parmi les passantes. Ce n'est plus qu'une lueur exaspérée d'automne, une cité traquée qui se ferme au désastre. Elle est voilée de noir. Un nègre l'accompagne, son gardien semble-t-il. Elle voyage parfois sous sa garde, voilée de noir à présent, de Beaune à Constantine, de Constantine à Beaune. Je ne la revis qu'un an après l'avoir conquise, celle que je poursuivais instinctivement de ville en ville, dans l'ignorance et la résignation. Nejma. Il en est des cités comme des femmes fatales. Gloire aux cités vaincues, elles n'ont pas livré le sel des larmes, pas plus que les guerriers n'ont versé notre sang. La primeur en revient aux épouses, aux veuves, qui transforment en paix la défaite, n'ayant jamais désespéré des semailles, car le terrain perdu sourit aux sépultures. Ce pays n'est pas encore venu au monde, trop de pères pour naître au grand jour, trop d'ambitieuses races déçues, mêlées, contraintes de ramper dans les ruines. Que le flux et le reflux se jouent de ce pays jusqu'à brouiller les origines par cette orageuse langueur de peuple à l'agonie, d'immémorial continent couché entre le monde ancien et le nouveau. Cette belle et mystérieuse vision, on la doit à Kateb Yassine, écrivain et journaliste algérien né en 1929 et décédé en 1989.
Le fait pour moi d'avoir écrit en français la tragédie algérienne, ça a, par un juste retour des choses, donner encore plus de splendeur à cette langue. Parce que elle se débattait en moi comme je me débattais contre elle. Ça a été un véritable combat, mais un combat au sens noble du terme.
Son roman « Nejma », dont je viens de vous lire un extrait, est l'un des textes fondateurs de la littérature algérienne de langue française. « Nejma », »,« l'étoile » en arabe, c'est le nom de cette héroïne fascinante et tragique. Berbère par son père, française par sa mère, objet de toutes les convoitises, Nejma incarne à elle seule l'Algérie, son histoire métissée et son destin tortueux. Kateb Yassine n'a que 27 ans quand il publie cette œuvre incandescente. Nous sommes en 1956, en pleine guerre d'Algérie. Le pays est déchiré. Militant pour l'indépendance, le jeune écrivain de Constantine révèle dans son roman une Algérie complexe et méconnue qui échappe aux idéologies. Dans le sillage de l'indépendance, d'autres voix algériennes ont donné à entendre les richesses et les contradictions de leur pays, tantôt en arabe, la langue officielle depuis 1963, tantôt en français. Beaucoup, justement, interrogent le rapport à la langue et à l'identité et mettent en scène l'histoire récente de l'Algérie. Ce soir, je vous propose de découvrir quelques-unes de ces voix remarquables. Celle des aînés, Mohamed Dib, Assia Djebar, et celle tout proche de nous, de Leïla Sebar, Boualem Sansal, Faisal Waret et Kamel Daoud. Tous nous invitent à une relecture intime de l'histoire algérienne à la première personne. Et si quelques voyageuses s'invitent à bord, nous serons surtout en famille et à hauteur d'enfant pour mieux interroger le monde. Après la Nejma de Kateb Yassine, parcourons d'abord l'Algérie en compagnie d'une autre voyageuse. Dans un très beau récit épistolaire, « Terre noire », paru en 2006 aux éditions Alpha, le romancier Faisal Waret, que je salue, rend hommage à Pauline Roland. Pauline Roland, c'est cette institutrice normande, militante féministe et socialiste, jugée coupable de s'être opposée au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. En 1852, elle est déportée à Sétif, sur un territoire français depuis peu, lieu de bien des fantasmes. À partir de ces éléments biographiques, Faisal Ouarette a imaginé le journal de Pauline Roland durant son séjour algérien. Suivons donc ses premiers pas dans cette ville qu'elle découvre de surprise en surprise. Sétif, mardi 10 août 1852. Me voici donc à Sétif. Je pensais m'effondrer dès que j'aurais mis un pied sur le sol de cette terre de mon infortune. Le voyage pour y parvenir fut pénible, un interminable chemin de pénitence, 30 lieues d'escalade depuis Bougie. À bout de force, je m'attendais à me retrouver dans un lieu infâme, rempli de misère et hanté par tous les scélérats du monde. Je croyais arriver dans une sorte de prison en plein air. J'imaginais Sétif comme l'un de ces endroits où sont jetés les indomptables de mon espèce pour leur faire passer définitivement le goût de se révolter contre l'ordre établi. Je revois encore le regard courroucé de ce jeune officier m'annoncer mon départ pour une ultime destination. Sétif. Le nom de cette ville sonnait comme la pire des sanctions dans sa bouche. À ma grande surprise, le trou dans lequel je suis condamné à vivre ma peine se présente comme une charmante petite ville, apparemment sans histoire. Une importante garnison militaire partage l'enceinte de la cité avec des civils. Des soldats bâtissent des immeubles et ouvrent des voies au bénéfice de paisibles autochtones et d'honnêtes colons. Ces Européens de différentes contrées sont venus chercher fortune, alléchés par les promesses de paradis brandies pour les attirer vers cette terre devenue française depuis peu. Ils ont accouru, nombreux, dans l'idée de recevoir un lot de terrains cultivés, vastes comme le canton de France, de Malte ou de Navarre, où ils ne connurent que des privations. Ils se voyaient déchiffrant une terre jamais cultivée, asséchant des marais infestés, n'appartenant à personne. À leur déconvenue, ils se heurtent à de vastes champs d'un blé rare, depuis fort longtemps grenier de tribus nombreuses et prospères, des prairies vertes où pèsent des troupeaux bien en chair. Alors les nouveaux venus ne sont pas toujours aussi bien servis qu'on leur a fait croire au moment de partir. J'éprouve pour ma part comme une joie nouvelle à découvrir ces collines presque désertes, cette étrange terre noire des champs. J'étais épuisé et malade en arrivant à Sétif et me rendis à peine compte de l'endroit où l'on m'amena. Lorsque je me réveillais, le jour commençait à poindre à l'horizon. J'étais couché dans une vraie chambre, avec un grand lit et des draps propres, une auberge. Je me levai en tâtonnant dans la lueur encore timide du lever du jour et ouvris toute grande la porte-fenêtre pour laisser pénétrer la lumière. Je découvris un long balcon dominant une grande place rectangulaire entièrement pavée, bordée de jeunes arbres. Une fontaine chétive l'ornait. Un bâtiment cossu était tourné vers la place, formé de deux ailes étroites entourant une cour d'entrée minuscule. Au-dessus du petit pavillon, un peu en retrait, était érigée une sorte de tour à base ronde, faite de briques apparentes. Était-ce le beffroi de la ville ? Je pus distinguer une silhouette, tout habillée de blanc, accoudée à la balustrade en haut du beffroi. C'était un homme. Il se mit à crier aussi fort qu'il le pouvait une sorte de chant. Je ne comprenais pas un traître mot aux paroles prononcées, ni la raison de cet appel lancé dès le lever du jour. Il ne semblait pas inhabituel aux habitants de la ville. Je ne vis aucune alerte provoquée par ce chant à tue-tête si matinal. La même personne récidiva quelques minutes plus tard avec les mêmes intonations, si je crois bien les avoir retenues. Ma première frayeur de surprise disparut. Je distinguais de frêles silhouettes traversant la place de toutes parts pour s'engouffrer dans le petit pavillon à la petite façade en pierre. Elles étaient presque toutes vêtues d'une longue et ample robe blanche, la tête couverte d'un turban ou d'une petite coiffe de la même couleur. Ayant interrogé l'aubergiste, je sais maintenant que c'est la mosquée de la ville. Ce que j'ai pris pour un beffroi est nommé minaret. Pour moi aussi, cet appel si matinal à la piété et la ferveur religieuse annonça une aube nouvelle. Avançons à grands pas dans l'histoire. Un siècle exactement après le séjour de Pauline Roland à Sétif, l'Algérie française vit ses dernières années. Et pour évoquer cette période, j'ai choisi les mots d'une grande dame de lettres, l'académicienne Assia Djebbar, disparue en 2015. Dans un roman paru en 2003 chez Albin Michel, « La disparition de la langue française », c'est comme ça que s'intitule le roman, elle traduit avec subtilité l'Algérie des années 50 depuis le regard d'un enfant. Nous voici donc à Alger. En 1952, Âgé de 6 ans, le petit Berkane est en deuxième année à l'école française. Il vient d'apprendre par sa mère l'existence d'un nouveau drapeau, vert, rouge et blanc. Mais l'écolier va découvrir à ses dépens que ces trois couleurs ne plaisent pas à tout le monde. Ce jour-là, l'instituteur nous ordonne « Faites chacun un dessin. Tenez, un bateau sur la mer, un dessin aux couleurs avec le drapeau sur le mât. » Marcel, mon voisin de table, un petit espagnol, se met à dessiner. Moi, moins doué que lui, je regarde ce qu'il fait, je lui emprunte ses couleurs. La couleur bleue pour la mer, la noire pour dessiner le mât, puis il faut colorer les vagues et le ciel. Marcel y est déjà à crayonner son drapeau, bleu, blanc, rouge. Je me dis aussitôt, moi je n'ai pas besoin du bleu. Eux, c'est le bleu. Et nous, c'est le vert. Le maître soudain s'étonne. Ça, c'est quoi, ça ? Sous son gros doigt, au-dessus du mât du bateau, mon drapeau pourrait presque flotter. C'est mon drapeau, monsieur. Et lui, chez Marcel, c'est quoi ? Un silence dans la salle. Moi, qui ne comprends toujours pas, qui répond quand même, « Lui, c'est son drapeau à lui, monsieur. » Soudain, le maître me prend par l'oreille, me soulève à demi et se met à crier, à hurler. Cette fois, une gifle retentissante me fait tourner la face. « Tu ne remettras pas les pieds à l'école si tu ne reviens pas avec ton père. » Le lendemain, mon père se rend très tôt chez l'oncle coiffeur. Il met son costume de cérémonie, le pantalon turc bouffant, le filet en soie brodé de fil d'or, la veste des jours de fête, son fez rouge entouré d'un turban en lin blanc sur la tête qui le rend majestueux, sa barbe et des moustaches peignées de près. À 10h30, nous voici tous les deux devant le portail de l'école. Le directeur reçoit mon père, l'air sévère et ferme, et s'adresse à moi. « Allons, toi, tu vas traduire à ton père ce que je vais dire. » Et il ajoute son regard froid descendant de haut en bas sur la silhouette raidie de mon père. « Avec cet accoutrement, je suppose qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français. » Mon père, n'ayant pas compris le mot « accoutrement », se lance aussitôt dans son français sabir et sa prononciation hasardeuse. « Si le mot m'a fait une bêtise, » commence-t-il. « Oui, » le coupe aussitôt le directeur. « Pour grave, c'est grave. Une insulte à la République, à la mère patrie, à la France. » Mon père, au mot « France », a un sursaut. Il fait un pas vers le bureau du directeur. « S'il a insulté la France, déclare-t-il dans son français approximatif, « prends-le, monsieur le directeur, ce garçon, et fais de lui ce que tu veux. » Il hésite, corrige son tutoiement. « Vous êtes, vous, plus que son père. » Le directeur semble un peu étonné de ce ton dramatique. Il sort de son tiroir un papier, mon dessin en l'occurrence. Il le montre à mon père en ajoutant « Je vous le dis tout net. » Heureusement que vous êtes venu. Je pensais que je devais remettre ce document à la police. Au mot police, je me sens pris dans une vraie tourmente. Or voilà que mon père fait là, dans le bureau du directeur, un numéro, du vrai théâtre. Et cela malgré son français à couper au couteau. Vous avez devant vous un ancien combattant de l'armée française. Mon père a le geste un peu vague de mettre sa main au front, comme s'il saluait la France. « Oui, continue-t-il. 5 ans, j'ai servi comme soldat dans la division Leclerc. Car, monsieur le directeur, j'ai participé à la libération de Paris, à la libération de Strasbourg. » Il continue à faire défiler ses états de service pour la France. Le directeur lui manifeste une soudaine considération. Sur quoi mon père, comme si ses réels états de service ne suffisaient pas, insiste. « Mon fils, il sera un bon soldat français. » Et là, dans ce bureau, il me décoche une gifle si violente que celle de l'instituteur et du directeur la veille me paraissent des caresses. Le directeur intervient. « Arrêtez ! On ne frappe pas un enfant ainsi ! Surveillez plutôt davantage votre fils. Je lui pardonne cette fois. Je classe le dossier. » En rentrant le soir, j'ai la surprise de trouver mon père qui m'attend, l'air adouci. Il me fait asseoir presque sur ses genoux. Il pose un regard sur moi, doux. « Si doux, mon petit, » me dit-il en tête à tête. « Fais attention à partir de maintenant. Tu es mon véritable fils, puisque tu connais notre drapeau. Mais il faut être patient. Il arrivera le moment où le drapeau flottera là, devant nous. Jamais plus je n'aurai de ce père si rude une voix d'une douceur aussi troublée. » Derrière l'incident des drapeaux, la guerre d'Algérie couve, restons à hauteur d'enfant pour vivre 5 ans plus tard la bataille d'Alger.
Front de libération nationale, communiqué numéro 24. Peuple algérien, l'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont oublié leur propre dignité. Le Front de Libération Nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance.
Dans un magnifique roman, Rue Darwin, paru en 2011 chez Gallimard, Boualem Sansal met en scène un homme qui revient sur les lieux de son enfance, à Bellecour, un quartier populaire d'Alger. Il se souvient de ses jeunes années dans la ville en guerre. Nous voici avec lui en 1957. Haut comme trois pommes, les messagers clandestins des forces algériennes cavalent la mort aux trousses. À Bellecour, point d'avarice ou de petitesse, la vie battait son plein. Alger était en état de siège et de folie. À chaque instant se concentrait toute la hâte et toute la crispation du monde. On ne savait sur quel pied danser. La mort rôdait, on la sentait à ses trousses, on marmottait des prières, on avançait en crabe comme des bêtes malades. Il se jouait dans la ville quelques chapitres grandioses et maléfiques d'une histoire sans fin. Cela se lisait dans le ciel, se sentait dans l'air, se voyait sur les visages. Tout était tragique et passionné, brutal et trompeur, fascinant et rebutant. On appellera la bataille d'Alger. Mais ce n'était pas une bataille authentique, le moment crucial et exaltant d'une guerre. C'était un épisode policier dans une ville interdite, un film en noir et blanc, avec checkpoint à chaque coin de rue, descentes et perquisitions à toute heure, des arrestations à la chaîne et des attentes vertigineuses, dos au mur, bras en l'air, dans des couloirs obscurs ou des centres de tri écrasés de soleil, et des témoins mortifères comme s'il en pleuvait, des kamikazes prêts à emporter avec eux dans la tombe la moitié de l'humanité, des discoureurs dingues de microphones, des palaces et des femelles envoûtées par le sang et la sueur du guerrier. On raflait dans les rues, on ratissait faim, même les enfants ne passaient pas, on dynamitait les cafés bondés et même les enfants étaient visés. On se nourrissait de sang, de fureur et même les enfants étaient de la partie. Ils étaient les premiers à courir au feu. C'est dire que je débarquais à un mauvais moment de l'histoire. J'ai vite été enrôlé, à 8 ans m'a-t-on dit. On fait une formidable recrue, on est doué pour le double jeu, l'infiltration et la carambouille. La guerre secrète fait feu de tout bois et les enfants sont des pyromanes nés. Je venais du village, mon air abstrait et la petite glaise entre mes orteils ferait merveille. Et hop, j'avais mon badge d'activiste et ma feuille de route en poche. Service courrier et arme de poing, je n'avais pas que des cahiers dans mon cartable. On a couru à se péter le cœur, à pied, en tram, en train, en stop, d'une planque à l'autre, d'une boîte aux lettres à l'autre, découvrant au passage la ville et ses beautés, ses laideurs et ses micmacs, ses coins et ses recoins encore plus étranges, ses balcons vertigineux et ses vues panoramiques, ses plages polluées par tant de vieux rêves brisés. On a approché ces peuples, des gens butés, intempérants, débris d'empires fracassés, agglutinés par le hasard et de faux calculs, qui mangeaient le même pain, buvaient le même vin, traînaient la même envie de vivre et de mourir, mais pour leur malheur, au même endroit. Parfois on nous repérait, nous avions les paras aux trousses, ou des gardiens de la paix bedonnants qui heureusement avaient le sifflet court, ou des mecs louvoyants qui pouvaient être des mouchards, des fédaïnes rendus fous par trop de clandestinité, ou simplement des gens inquiets. La ville sentait la poudre, le gaz lacrymogène, le sang noir des cadavres rôtissant au soleil, la sueur du pauvre, la pourriture qui s'entasse, les odeurs de la vie bâclée, le tout balayé par ce petit vent iodé et hallucinogène qui faisait monter de drôles d'exaltation dans les cœurs. La bataille d'Alger terminée, la vie reprit son cours. C'est-à-dire que pour nous, les enfants, l'heure était venue d'être démobilisés et de reprendre honnêtement le chemin de l'école. Nous ne pouvions décemment pas rêver de devenir des anciens combattants à notre âge, ni accepter de retomber en enfance. C'est trop bête. Je crois que nous avions attrapé le virus de la politique. Et la politique à Alger a toujours été la seule et unique occupation des grands et des petits. C'est dramatique. Nous ne savions rien faire d'autre. Ni semer des patates, ni élever des poulets. Nous avons donc continué à sécher les cours, à naviguer dans la clandestinité, méprisant le danger et toute forme de concession, intriguant avec l'un et l'autre, courant les manifestations d'un territoire au suivant. Nous surprenions les conciliabules, attrapions au vol les mots de passe, étions au premier rang des meetings, rôdions dans les fiefs et les bas-fonds, entrant partout où une porte mal fermée se présentait à nous. Par nous-mêmes ou par les copains des copains, nous savions les grands et petits secrets d'Alger aussi bien que les renseignements généraux. La guerre est finalement une sacrée machine à écourter l'enfance. en quelques mois d'une animosité qui a abasourdi l'humanité, nous fûmes métamorphosés, brûlés au cinquième degré. Nous avons perdu nos ailes. Nous étions dorénavant de vieux routiers de la guerre, blais et tristes, cabossés et couturés de partout. Et ce n'était pas fini. D'autres guerres nous attendaient, aussi pourries les unes que les autres. Et déjà nous avions la conviction que nous ne sortirions pas vivants de cette galère.
On parle beaucoup en ces derniers temps, non seulement des succès obtenus par les parachutistes, mais aussi des méthodes qui seraient utilisées par eux.
Et si on veut tout dire, parlons de la torture.
Compris. Quelle forme d'interrogatoire devrions-nous adopter? Celui en usage dans la procédure civile qui, pour le moindre délit, dure des mois?
La légalité n'est pas toujours commode, mon colonel.
Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous voulons y rester. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Nous sommes des soldats et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
ورنيك سيفي مليان ولا صردي فلان نتصرف كان دي طامزي ونحس بذك وسال وري اللي وغدي شقال سوى كم ذنكني لا بوهم لا بوهم هذا سنخار أما رح بستيري لا بوهم نكي كتخصني تراكم ثرني راس شنان ولا شسني خور نجي غاس نروى الميزيريا نسارة ما زكا قتابور تسنى لي أدن بانتي ثمورا غنى وذكرى نبغى ندوينا كوي نتمني نتسيدر دي ترقى نومن تلموزيكا دي مديازن مثل اللي لا صبون تقصر دقمي طرومي وكنا دناوي منسي من ميت ثغلي دورو النزل سبس دورو قدهين تصغيمي مين عين استعفو تخمتات سيدني خروبة بس يقبل سكريدي تفرارة ما تثرزو أديث برنان الدو أبريدة تناوي لا
Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe d'une hanche.
Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La اسامو اليفري يمي اهتادي ظلي غف اسمكني الهنوسه يسير سمكانني عند مقر ثيرين نتظر غدي قرى وفي غيك فاكل شي وردي قيميني نسينا مديك يا زمان يفسي وزر السنين ما يخفي وهني تسوميني بيعدى لا شوف غاليني مزران
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Le français fait partie de nous. Bon, il est dans nos gènes, c'est notre langue.
Boualem Sansal.
Et vous écrivez, vous d'ailleurs, en français.
J'écris, oui.
Pas en arabe, pas en berbère.
Non, j'écris en français, comme d'ailleurs tous les écrivains algériens, la plupart. Ça fait partie de notre culture. Mais bon, le pouvoir ayant opté pour l'arabisation, le français a été traité comme étant la langue du colonisateur. La langue n'appartient pas au colonisateur. Le français appartient à l'humanité. Donc, qui aime cette langue la parle. Et moi, j'aime cette langue. Elle fait partie de moi. Je suis né là-dedans et je me réalise complètement dans cette langue.
Ses souvenirs marquants de l'enfance, Boualem Sansal les interroge un peu plus loin dans Rue Darwin. Bien des années après ses cavalcades clandestines, le narrateur se retrouve au chevet de sa mère mourante. Aîné de 6 enfants, il est le seul à rester vivre à Alger. Ses frères et sœurs mènent des carrières brillantes aux 4 coins du monde. Réunis pour la circonstance à Paris, les 5 enfants présents tentent de rétablir les liens distendus. Et c'est le souvenir de la rue Darwin, le lieu de leur enfance à Alger, qui leur offre une mémoire à partager. Je me trouvais à Paris avec mes frères et sœurs au chevet de notre vieille maman. Nazim, Souad, Mounia, Karim et moi, nous étions des étrangers, rassemblés momentanément par le malheur. Nous vivions dans des pays différents, des continents lointains. Nous ne respirions pas le même air, n'avions pas les mêmes rêves, et notre pain quotidien n'avait pas le même goût. Nous nous sommes organisés en définitive. Nous passions à l'hôpital, à tour de rôle, aux heures de visite. Nous allions par deux, par trois, nous parlions à maman par la pensée, l'écoutions respirer, nous attendions en priant pour le miracle. Et le soir, chez Nazim, autour de la table, puis au salon, nous passions ces heures paisibles à essayer de renouer les liens, resserrer ce qui pouvait l'être. Comme dans toute conversation de famille, le brouhaha l'emportait. On ne savait qui parlait, qui écoutait. Mais la curiosité, c'était quand même moi. J'étais l'aîné, le vieux frangin coincé au pays, l'infirmier de maman, la mémoire vivante de la famille, l'homme fidèle et original entre tous. J'étais Jésus sur sa croix, Robinson Crusoe dans son île perdue. On voulait tout savoir. On était impatients, comme lorsqu'on se doute que les nouvelles seront pires qu'envisagées. Raconte-nous la vie au bled, c'est quoi Alger aujourd'hui ? J'éludais. Je n'allais pas dénigrer le pays, fût sans famille. C'est comme partout, en plus difficile. Où va l'argent du pétrole ? Dans nos porte-monnaies, qu'est-ce que tu crois ? Tu travailles où ? C'est quoi ton boulot ? Tu sais, je suis dans l'administration. La guerre est finie ? Sans doute. Et la paix, elle est revenue ? On le dit, une ordonnance a été prise. Mais c'est quoi ta vie à toi ? Alors je racontais, mais il n'y avait rien à dire. Sinon l'indicible et ennuyeux quotidien, et donc je renvoyais la balle. Et toi, ça va comme tu veux ? Et toi à Marseille ? Et toi en Amérique ? Et toi au Canada ? Il me regardait avec respect et patience. J'étais l'homme étrange d'un pays étrange, archaïque et fermé. Il me parlait avec lenteur. Il se répétait, il disait « Comment t'expliquer ? C'est compliqué. Tu vois, chez nous... C'est comme au pays, mais en plus compliqué. Il faut vivre ici pour comprendre. Tu sais, l'Amérique, le Canada, la France, c'est un autre monde. » Et ils avaient raison. Je ne le connaissais pas, ce monde, ni l'Amérique, ni le Canada. Et la France, qui fut notre mère patrie, je ne la connaissais que par des livres et des images toutes faites. C'est alors que ma sœur Mounia a incidemment ouvert une brèche dans l'espace-temps. « Ah, j'aimerais tant revoir notre chère vieille rue Darwin », a-t-elle dit dans un accès de nostalgie. Tout un monde figé a bougé dans ma tête. Il y eut des explosions de lumière et des grincements inquiétants. Ce fut un déferlement massif et désordonné. Les souvenirs se mettaient en place, non selon l'ordre chronologique, mais selon celui de la vérité et des lignes de faille. Et puisque Mounia avait ouvert la brèche, nous nous y sommes engouffrés. Et nous avons parlé de la rue Darwin, avec amour et passion. Nous avions quelque chose qui nous ressemblait, nous rassemblait, dont nous pouvions parler à perte de vue sans nous ennuyer une seconde. Ainsi est la force des lieux de l'enfance dans nos souvenirs. Ils ne meurent pas, ne ternissent pas, et jamais ne sont à court de souvenirs nouveaux à nous offrir. Parler de la Darwin, c'était parler de nos parents, de notre maman et de ce bon papa, qui était si discret de son vivant. C'était dire ces petites choses de l'enfance, niaiseuses et rarement véridiques, qui émeuvent tant les parents et les rendent gâteux. Darwin, c'était ça, l'histoire d'une famille heureuse en marche vers la félicité. « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant », disait Prévert. Nous, nous l'inventions à grand bruit à mesure que la mémoire nous revenait. Les langues se libéraient, les souvenirs se bousculaient l'un l'autre, nous avions le cœur qui gonflait comme du bon pain blanc. Mais je découvrais en parlant avec mes frères et mes sœurs qu'on pouvait avoir habité le même nid et avoir des vues différentes. Je ne me reconnaissais pas dans leurs souvenirs. D'où tirait-il cette idée que leur temps était la belle époque? Était-ce possible? L'ont-ils oublié? Nous étions gouvernés par des assassins et des bandits de grand chemin. Ce temps était celui de la police et des milices, du chômage et de l'ennui, de la rapine et de la famine, des spoliations, des convocations. C'était le temps des hurlements étouffés et des joies organisées. Ils ont oublié qu'on se nourrissait de soupe en sachet roico et de pain, midi et soir. Ils ont oublié que nous étions envahis par les rats et les cafards, que l'eau était rationnée, que nos parents s'enfonçaient dans le désespoir, que rien ne marchait, que tout manquait. Mais ils ne comprenaient pas plus mon bel cours à moi. Pour eux, il était celui de la guerre, des bombes et de la torture, des paras et de l'OAS, le temps de la honte et des humiliations, des déchirures et des exodes massifs, celui de l'angoisse qui pourrit les cœurs, celui des familles démembrées et des foyers saccagés. Comment aurait-il su mon autre bel cours, si vivant et cosmopolite, intime comme une merveilleuse amante, et mon village avec son phalanstère étrange et son peuple si folklorique? Il y a autant de lieux que de regards. Chacun voit son bel cours à lui. Le mien n'était pas le leur. Celui de Swad n'était pas celui de Nazim, qui n'était pas celui de Karim, ni de Mounia.
Parler de soi est la chose la plus difficile qui soit. Parler de soi est une sorte de viol. Hein. On est une boîte à secrets. Et ouvrir sa propre boîte à secrets, les divulguer, est une chose extrêmement difficile.
Partons à la rencontre d'une autre famille, hantée, elle, par le souvenir d'un drame. Loin de la fratrie métissée de Boilem-Sansal, c'est un duo en deuil, une mère et son fils, que met en scène Kamel Daoud dans son premier roman « Meursault contre enquête ». Immense succès dès sa parution chez Actes Sud en 2014, ce texte rend hommage à L'étranger d'Albert Camus. Mais un hommage singulier, puisque Kamel Daoud nous livre, lui, le point de vue d'Haroun, le frère du jeune arabe tué par Meursault. Dans l'extrait suivant, celui-ci met en perspective le deuil de son frère et son apprentissage du français. En s'émancipant de la langue maternelle, le jeune homme tente de conjurer le malheur familial. Ma avait l'art de rendre vivants les fantômes et inversement d'anéantir ses proches, de les noyer sous ses monstrueux flots d'histoires inventées. Je te jure, mon ami, elle t'aurait raconté mieux que moi l'histoire de notre famille et de mon frère, elle qui ne sait pas lire. Elle mentait non par volonté de tromper, mais pour corriger le réel et atténuer l'absurde qui frappait son monde et le mien. La disparition de mon frère Moussa l'a détruite, mais paradoxalement l'a initiée à un plaisir malsain, celui d'un deuil sans fin. Pendant longtemps, il ne se passa pas une année sans que ma mère ne jure avoir retrouvé le corps de Moussa, entendu son souffle ou son pas, reconnu l'empreinte de sa chaussure. Le chagrin de Ma dura si longtemps qu'il lui fallut un idiome nouveau pour l'exprimer. Elle parla comme un prophète, recruta des pleureuses improvisées et ne vécut rien d'autre que ce scandale, un mari avalé par les airs, un fils par les eaux. J'en éprouvais pour longtemps une honte impossible. Plus tard, cela me poussa à apprendre une langue capable de faire barrage entre le délire de ma mère et moi, pour survivre. Et ce fut celle que je parle en ce moment. À partir de mes 15 ans présumés, date à laquelle nous nous sommes repliés vers Adjoud, je suis devenu un écolier grave et sérieux. Les livres et la langue française me donnèrent progressivement la possibilité de nommer autrement les choses et d'ordonner le monde avec mes propres mots. J'ai été scolarisé dans les années 50, un peu tard donc. J'avais déjà une tête de plus que les autres gamins quand j'ai été admis. C'est un prêtre qui a insisté auprès de moi pour que j'intègre l'école de Adjoud. Je n'oublierai jamais le premier jour, à cause des chaussures. Je n'en avais pas. Les premiers jours de classe, je portais un tarbouche et un pantalon arabe, et j'avais les pieds nus. On était deux Arabes, et on était pieds nus. L'instituteur, de cela je lui suis reconnaissant jusqu'à maintenant, faisait semblant de rien. Il inspectait nos ongles, nos mains, nos cahiers, nos vêtements, et évitait d'évoquer nos pieds. J'étais brillant. La langue française me fascinait comme une énigme au-delà de laquelle résidait la solution aux dissonances de mon monde. Je voulais le traduire à main, mon monde, et le rendre moins injuste en quelque sorte. Je n'ai pas appris à lire pour pouvoir parler comme les autres, mais pour retrouver un assassin, sans me l'avouer au départ. Au départ, je pouvais à peine déchiffrer les deux coupures de journaux que Ma gardait religieusement pliées dans sa poitrine et qui racontaient le meurtre de l'Arabe. Plus je gagnais en assurance dans ma lecture, plus je pris l'habitude de transformer le contenu de l'article et me mis à enjoliver le récit de la mort de Moussin. Ma régulièrement me l'étendait. « Lis donc, voir à nouveau, regarde s'ils ne disent pas autre chose que tu n'aies pas compris. » Cela a duré presque 10 ans, cette histoire. Je le sais parce que je connais les deux textes par cœur. On y retrouvait Moussin sous la forme de deux initiales maigres. Puis le journaliste s'était fendu de quelques lignes sur le criminel et les circonstances du meurtre. Tu devines donc le génie qu'il a fallu pour transformer un fait divers de 2 paragraphes en une tragédie décrivant la scène et la fameuse plage, grain par grain. J'en ai toujours détesté la brièveté insultante. Comment pouvait-il être possible qu'on accordât si peu d'importance à un mort ? La première fois que Ma m'a vu enrouler l'alphabet de mes premières lettres sur mon cahier de nouvel écolier, elle m'a tendu les 2 bouts de journaux et m'a sommé de lire. Je n'ai pas pu, pas su. « C'est ton frère !» m'a-t-elle lancé sur un ton de reproche, comme si j'aurais dû reconnaître un cadavre dans une morgue. Je me suis tue. Qu'ajouter à cela ? Je devinais du coup ce qu'elle attendait de moi. Faire vivre Moussa. Avec 2 paragraphes, il fallait retrouver un corps, des alibis, des accusations. J'ai mis tout ce que je pouvais entre les lignes de ces brèves de journal. J'ai gonflé leur volume jusqu'à en faire un cosmos. Ma a eu droit à toute la reconstitution imaginaire du crime. La couleur du ciel, les circonstances, les répliques entre la victime et son assassin, l'atmosphère du tribunal, les hypothèses des policiers, les ruses du maquereau et des autres témoins, le plaidoyer des avocats, enfin... J'en parle ainsi, mais à l'époque, c'était un désordre indescriptible, une sorte de mille et une nuits du mensonge et de l'infamie. J'en ai parfois éprouvé de la culpabilité, de la fierté le plus souvent. Je donnais à ma mère ce qu'elle avait cherché vainement dans les cimetières et les quartiers européens d'Alger. La langue maternelle est la langue de l'école, celle des mères et celle des fils. C'est aussi un thème cher à Leïla Sebar.
Ces fils du pauvre dont fait partie mon père et un certain nombre d'écrivains du Maghreb, ces fils ont souvent écrit parce qu'ils sont partis. Parce qu'ils sont partis ou ils ont quitté le village natal, ou ils ont quitté le pays natal et ils sont allés ailleurs. D'abord dans l'autre langue, c'est-à-dire la langue française, qui a été à un moment et pendant longtemps la langue du colonisateur, puis qui a été une langue que les écrivains se sont appropriée.
Dans « Mes Algériens en France », paru en 2004 aux éditions Bleu Autour, la romancière dévoile une Algérie subjective et affective, peuplée d'anonymes, de figures tutélaires et d'amis. Voici donc l'un des textes émouvants qui compose ce carnet de voyage autobiographique, un pont jeté entre les mères et les fils, par-delà les langues et l'exil. Ils ont quitté la maison maternelle. Ils ont abandonné à son histoire la maison de la crête aride, de la ville marine, de la ville lettrée et pieuse. Maison analphabète où attendent les femmes. Le fils sera-t-il ce fils prodigue ? La mère a sauvé de la destruction la planchette coranique où l'enfant a tracé des lettres qu'elle suit de l'index sans les lire. Les derniers dessins de la langue domestique. Tracés à la suie, ils resteront encore, protégés dans l'ombre du vieux coffre ou dans le tiroir de l'armoire géante. Ils ont quitté la maison où se meurent les vieilles tantes, l'aveugle immobile et celle qui parle autour d'elle. Dans la chambre, le sanctuaire minuscule, blanchi à la chaux, reste le dernier témoin de la piété maternelle. Ils ne reverront pas les dalles brisées de la cour carrée, ni le figuier, ni les linges informes qui sèchent au bord de la balustrade en bois de cèdre, ni les deux mûriers. L'un donne des blanches et l'autre des rouges. Avec les feuilles, les enfants de la maison ont élevé des vers à soie. La maison n'a pas été détruite par une grenade qu'aurait lancée un jeune soldat terrifié. Elle n'a pas été bombardée par la guerre. Elle n'a pas explosé sous le regard de l'ennemi qui occupe la terre ancestrale. Elle est debout, comme une femme qui met au monde un enfant. Elle est debout, mais elle se délabre. Le fils est parti. Il ne reviendra pas. Les femmes de la maison le nomment chaque jour devant le petit sanctuaire fidèle. Il ne reviendra pas. Elles le savent. Elles comptent les figues mûres et les graines du chapelet jusqu'au dernier nom de Dieu, le 99e, le patient. Pas un mot, pas une phrase, pas une lettre, pas une image du pays étranger. Le fils a disparu. Elles attendent. Elles ne l'oublient pas. Elles savent qu'il est vivant dans une autre maison, une autre langue, très loin. Un pays qu'elles ne peuvent pas imaginer, un nord occidental, au nord du nord, un pays qui ne peut pas être un pays. Les fils qui sont partis, les fils qui ont abandonné les femmes à la maison natale, ces fils seraient morts de mélancolie s'ils n'avaient eu la certitude que les femmes vivent. Elles sont éternelles, ils n'en doutent pas. Et même s'ils ne le savent pas, c'est pour elles qu'ils écrivent des livres qu'elles ne liront jamais. Elles regardent en secret la planchette où le fils a écrit des arabesques noires et le livre qu'un voisin a donné. Elles l'ont ouvert pour voir les lettres étrangères serrées sur des pages et des pages. Elles ont enfermé le livre et la planchette dans le coffre, entre les plis du beau velours de Damas. Je suis la fille de ces fils qui écrivent des livres si loin de la maison qu'ils ont quittée pour ne plus y revenir. Et parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont subi l'épreuve du passage pour tous les autres, nous écrivons. J'écris. Mohamed Dib est de ces fils-là, dont je serai comme l'une des filles. زماني لغايب على حياة الفرحة Comme Leïla Sebar nous y invite, concluons le voyage sur ses filiations littéraires. Faisons entendre la poésie de Mohamed Dib, l'une des plus grandes voix d'Algérie. En ouverture de cette émission, souvenez-vous, nous suivions de ville en ville la mystérieuse silhouette de Nejma, l'héroïne de Kateb Yassine. En 1960, 4 ans après la parution de Nejma, Mohamed Dib semble répondre à son compatriote. Son recueil de poèmes « Ombre gardienne », une vraie révélation, est porté par le souffle d'une autre femme errante. Repartons avec elle arpenter l'Algérie. Fermez vos portes, femmes. Le sommeil amer remplira vos nerfs. L'eau, le sable ont usé la trace de vos pas. Rien ne vous appartient. Lointains les quelques scintillements d'étoiles. Opaque la terre alentour. Les demeures sont noires qui abritent votre repos. Fermez vos portes. Je suis la gardienne. Rien ne vous appartient. Mais je chanterai à peine pour que ne se mêle guère la peine à votre sommeil. Paix à vous, mère, épouse. Le tyran buveur de sang dans vos vents sera poussière. Je marche sur la montagne où le printemps qui arrive met des herbes odorantes. Vous toutes qui m'écoutez, quand l'aube s'attendrira, je viendrai laver vos seuils et je couvrirai de chants les ululements du temps. Ne demandez pas si le vent qui traîne sur les cimes attise un foyer, si c'est un feu de joie, si c'est un feu des pauvres ou un signal de guetteur. Dans la nuit, trempez encore, femmes fabuleuses qui fermez vos portes, rêvez. Je marche, les mots que je porte sur la langue sont une étrange annonce.
En Méditerranée, en pays méditerranéen,
à Siadjebar,
l'univers est plein de paroles, saturé de mots. Il faut en quelque sorte s'en extraire au départ pour entrer dans ce que j'appellerais, au fond, l'écriture serait une parole de silence, une parole silencieuse.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Sébastien Royer. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinche, Fanny Leroy et Claire Tesser. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine.